Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Donald Trump est prévenu, les dirigeants européens ne le laisseront pas déconstruire l'OTAN sans rien faire. Réunis à Berlin vendredi dernier pour dire adieu à Barack Obama, les chefs d'État et de gouvernement allemands, français, britanniques, italiens et espagnols ont mis en garde le prochain président américain. La coopération transatlantique ne saurait être remise en cause. Dans leur élan, les mêmes Merkel, Hollande, May, Renzi et Rajoy ont également adressé un message de fermeté à Vladimir Poutine. Les sanctions de l'Union européenne contre la Russie doivent rester en vigueur jusqu'à la mise en œuvre des accords de paix en Ukraine. Une unanimité à 5 qui aurait sans doute eu davantage de mal à exister à 28, car tous les gouvernements européens n'ont pas la même façon d'envisager leurs relations avec les Russes. Tous les électeurs non plus d'ailleurs. Le 13 novembre dernier, les Bulgares ont ainsi porté à la présidence Roumen Radev, pro-russe assumé. Et hasard ou pas du calendrier, le même jour, la Moldavie, pays aux portes de l'Union, choisissait elle aussi un président favorable à Moscou. Alors changement à l'ouest, changement à l'est. Ces bouleversements politiques sont-ils porteurs de déséquilibre au point d'obliger à une réorientation de la diplomatie européenne? L'Europe a-t-elle le cul entre deux chaises? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités. Florent Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po, vous animez le blog Eurasia Prospective. Vous avez publié en 2014 aux presses de Sciences Po « Les chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie ». Pour discuter avec vous, Patrick Martin-Genier, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Vous allez publier dans quelques semaines « L'Europe a-t-elle encore un avenir ?» Ce sera chez quel éditeur ?
Studirama Brial.
Et puis notre troisième invité est un habitué de cette antenne, c'est Thierry Garcin. Bonsoir.
Et bonsoir Hervé.
Producteur des enjeux internationaux tous les matins à 6h45 sur France Culture. Ce matin, c'était la Corée du Sud. Demain, ce sera la justice internationale. Vous êtes par ailleurs chercheur associé à Paris Descartes. Alors je voudrais qu'on commence à regarder ce qui s'est passé à l'est de l'Europe le 13 novembre dernier, le même jour, donc deux présidentielles, une en Bulgarie, une en Moldavie. En Moldavie, Igor Dodon, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on prononce, oui, me dit Florent Parmentier, est élu. En Bulgarie, c'est Roumen Radev, deux candidats pro-russes. D'abord, est-ce que c'est un pur hasard de calendrier, si deux présidents pro-russes se retrouvent élus à la tête de leur pays respectifs? Et question subsidiaire, est-ce que c'était des résultats relativement inattendus?
Alors, sur ces différentes questions, hasard de calendrier, il n'y a pas de hasard dans la mesure où les élections étaient prévues le même jour, ça depuis plusieurs mois, donc il n'y a pas un choc soudain qui s'est emparé de l'Est de l'Europe. À côté de ça, il faut voir aussi que ces deux candidats étaient des candidats d'opposition. Et donc, c'est dans le cadre de l'alternance assez classique. Et il faut bien voir aussi bien M. Radev que M. Dodon ne sont pas uniquement pro-russes. C'est-à-dire, les électeurs vont voter pour eux selon différents critères, préférences, etc. En matière de justice sociale, en matière d'orientation géopolitique, sans doute. Mais c'est un choix parmi d'autres. Donc je crois qu'il faut à la fois relativiser peut-être ce coût d'entrée, ou en tout cas l'arrivée au pouvoir de partisans plutôt pro-russes dans ces deux pays.
Comme dans de nombreuses élections, finalement, ce que vous nous dites, Florent Parmentier, c'est que les élections consistent assez souvent à sortir les sortants. Mmh. Là, en l'occurrence, il y avait une alternance qui était possible. Il se trouve que cette alternance, elle se fait en faveur des candidats, notamment pro-russes, mais que ce n'est pas forcément le signe, du coup, de quoi, d'un mouvement de fond et d'adhésion aux valeurs de la Russie et de rejet de ce que représente l'Union européenne.
Alors, je pense que ce n'est pas effectivement totalement un hasard ces élections, que ça entre dans le cadre de l'alternance. Pour autant, est-ce que un certain nombre de valeurs défendues par la Russie se retrouvent dans des circuits politiques ou dans les systèmes politiques des différents pays? Là, je pense qu'on peut dire oui. Avec peut-être, si on devait le faire de manière très brève, sans doute un peu rapide, on aurait un poutinisme de droite, quelque sorte, qui se retrouverait autour des valeurs d'autorité de l'État, des valeurs familiales, traditionnelles, du nationalisme, et un poutinisme de gauche, plus rare, mais qui existe. Quand on voit qu'il existe aussi bien en Grèce, il existe chez nous, chez Jean-Luc Mélenchon, il existe en Moldavie et en Bulgarie, donc qui est plutôt un pro-poutinisme anti-impérial, en tout cas impérialisme compris, non pas comme l'impérialisme russe, mais comme l'impérialisme américain. Et donc il y a différents produits d'appel par rapport à un même poutinisme, en quelque sorte.
Patrick et Martin Jeunier, pour rester un instant sur la Moldavie et la Bulgarie, donc est-ce que vous diriez, de la même manière, un petit peu que Florent Parmentier, qu'il ne faut pas surestimer la dimension pro-russe de ces votes, mais il ne faut pas non plus totalement l'évacuer?
Alors, il ne faut pas du tout l'évacuer parce que pour moi, c'est symptomatique d'une évolution politique dans toute l'Europe et en Europe de l'Est notamment. Peut-être parlons-nous tout à l'heure de la Pologne, de la Hongrie. Mais également, c'est un vote de rejet national. Je regardais récemment un eurobaromètre du Parlement européen qui montre que les citoyens sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des pouvoirs nationaux. Et c'est le cas également en Bulgarie et en Moldavie où il y a quand même un phénomène de corruption qui est très important. Et par exemple, c'est 1 milliard d'euros qui ont disparu des caisses de 3 banques moldaves. Et dans un pays où 40% de la population vit avec moins de $5 par jour. Donc c'est également un sentiment de rejet d'une classe politique nationale envers laquelle on n'a plus confiance. Donc il ne faut pas surestimer l'aspect pro-russe. Il faut le prendre en compte naturellement parce que ce sont des pays qui ont des difficultés à s'émanciper de l'ancien glacis soviétique. Mais il y a également un sentiment de rejet vis-à-vis de la classe politique nationale.
Est-ce que vous partagez cette première analyse, Thierry Garcin?
Oui, avec évidemment la différence, c'est que Hervé Gardette, la Moldavie n'est pas dans l'Union européenne et que la Roumanie est dans l'Union européenne, et la Bulgarie et la Roumanie depuis 2007. Ce qui est frappant quand même, c'est le fait qu'on ne puisse plus parler vraiment d'ancienne Europe de l'Est comme si c'était une entité. Il y a une double processus de fragmentation en Europe de l'Ouest, qu'on appelait autrefois l'Europe de l'Ouest dont on va parler. Il y a même plusieurs processus de fragmentation en cours. L'Union européenne est en train de se déliter, de se détricoter, comme on a très bien dit depuis des années. On verra pourquoi et comment. Mais aussi dans l'Europe, dans l'ancienne Europe de l'Est, dans les anciens pays satellites, vous avez des réalités extrêmement différentes, que ce soit en Europe orientale, en Europe centrale, en Europe balte, en Europe balkanique, et c'est une tendance très lourde, cette fragmentation, et dans l'ancien Est, donc de l'autre côté de l'ex-rideau de fer, et dans l'ancien Ouest. On est dans une période de centrifuge, et pas du tout centripète.
Hein, il faut faire attention à ne pas essentialiser l'Europe de l'Est.
Oui, non, pas du tout, et on l'a vu d'ailleurs d'une façon, puisque vous parliez de la Russie, Hervé Gardette, on l'a vu à propos de la Russie en 2014 lors de l'affaire notamment de la Crimée, qui s'est conclue par l'annexion militaire de la Crimée par la Russie, donc de vive force. On a vu par exemple des typologies de comportements stato-nationaux, comme on dit, entre les pays baltes et la Pologne d'un côté, très appuyés par le Royaume-Uni à l'époque, il ne faudra pas l'oublier, et puis de d'autres, des pays beaucoup plus prudents, en l'occurrence comme l'Allemagne, qui inclut par définition l'ancienne Allemagne de l'Est, donc avec cette composante, et puis des pays qui sont beaucoup moins allants contre la Russie. Donc il y a un paysage qui est vraiment très bariolé géopolitiquement.
Patrick Martin-Génier.
Oui, tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Je veux simplement dire à propos de la Moldavie qu'un accord d'association avait été signé avec l'Union européenne, naturellement, et on peut penser que l'élection de ce président pro-russe, même s'il n'a que des pouvoirs symboliques, va constituer une sorte d'arrêt avec le rapprochement de l'Union européenne.
Est-ce qu'on peut d'ailleurs imaginer qu'il y ait eu une forme de pression amicale ou inamicale d'ailleurs russe au moment dans ces élections, à la fois en Moldavie et en Bulgarie, Florent Parmentier, que le résultat pourrait être aussi considéré comme une forme de victoire, une petite victoire pour le pouvoir russe?
Alors, il est vrai qu'un certain nombre d'électeurs venant de Transnistrie ont pris part au vote. Et c'était quelque chose de plutôt inhabituel.
Alors la Transnistrie, il faut rappeler ce que c'est.
Et cette partie séparatiste de la Moldavie, à l'est, donc de l'autre côté du Dniestre, qui est depuis 1990-91 indépendante de la Moldavie.
Qui est russophone.
Qui est majoritairement russophone, qui est très orientée vers la Russie sur le plan de la géopolitique, qui sur le plan économique, en revanche, a énormément de relations avec l'Union européenne. Donc on voit bien là que rien n'est toujours très simple, parce que l'intérêt économique de la Transnistrie irait plutôt vers l'Union européenne, parce que l'accès au marché européen, finalement, est la meilleure chose qui offre les meilleures chances de déboucher à cette partie-là. Et dans le même temps, effectivement, pour reprendre ce qu'on disait peut-être sur la fragmentation de l'Europe, on peut voir ça de manière très claire sur l'ancien empire austro-hongrois. C'est-à-dire, on voit bien qu'au sein du groupe de Visegrad, on a à la fois, la question des valeurs, qui rassemblent ces pays, mais parfois des orientations politiques à l'intérieur du groupe qui sont radicalement opposées, en tout cas qui sont assez opposées. La politique étrangère de la Pologne, effectivement, on en a parlé à l'instant, n'est pas celle de la République tchèque. Donc on a quand même effectivement une carte européenne en ce moment qui est en grand changement et dont peut-être la prochaine interrogation porte sur l'Autriche.
Voilà, le groupe de Visegrad, c'est celui qu'on prononce, nous, Visegrad, de manière un petit peu moins précise, mais qui recouvre donc la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et le quatrième...
La Hongrie.
Et la Hongrie. S'agissant de l'interprétation, peut-être encore, et ce sera la dernière question à ce sujet, mais du vote moldave et du vote bulgare, même si on a bien compris, d'abord, ce ne sont pas les mêmes votes, ce ne sont évidemment pas les mêmes contextes politiques nationaux, mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est ce que disaient les deux présidents élus à propos de l'Europe. On pourrait interpréter ce vote comme un vote anti-européen. Or, ce n'est pas exactement ce que disent Eradef en Bulgarie et Dodon en Moldavie. Le président bulgare dit « L'appartenance de la Bulgarie à l'Union européenne et à l'OTAN n'a pas d'alternative. Ça ne signifie pas que nous devons nous déclarer ennemis de la Russie. » Et Dodon en Moldavie, je souhaite un partenariat stratégique avec la Russie, mais pas au détriment des relations avec l'Occident et l'Union européenne. Est-ce que ça, c'est pas un des phénomènes auxquels on assiste aujourd'hui au sein de l'Union européenne ou en tout cas à ses frontières, la volonté de peut-être d'un rééquilibrage, disons, de la relation entre les Européens justement et les Russes, Thierry Garcin.
Oui, c'est évident parce que par exemple quand il y a eu le grand train des adhésions de 2004, 10 d'un coup, donc les trois anciens républiques fédérées soviétiques, les pays baltes. En fait, les Européens de l'Est, comme on disait à l'époque, allaient un peu vers le tiroir caisse de l'Union Européenne et engrangeant quantité de fonds structurels, etc. Et c'était tant mieux, là n'est pas la question. Mais en revanche, ils recherchaient surtout à l'époque le parapluie de la sécurité stratégique américaine. On n'est plus du tout dans cette affaire-là. D'ailleurs, l'élection de Trump montre que les cartes sont en partie redistribuées et qu'on ne peut plus parler, si vous voulez, d'une Europe de l'Ouest au sens idéologique du terme occidental et d'une Europe de l'Est plus proche de la Russie. Ça n'a pas de sens.
Florent Parmentier.
Je crois que à travers le vote moldave, on peut voir trois choses. Il y a eu d'abord un vote sur la question de l'oligarchie. On a parlé tout à l'heure du milliard volé. C'est effectivement l'un des points les plus importants du vote et l'un des facteurs de démobilisation de l'électorat. Au premier tour, 48% des Moldaves se sont déplacés. Au deuxième tour, ils sont 53%. Ce qui veut bien dire que le premier parti de la Moldavie, en réalité, est le parti des abstentionnistes et de très très loin, y compris sur une élection présidentielle. La deuxième chose peut-être sur laquelle il faut revenir, c'est la question des valeurs. Au moment de la campagne électorale moldave, il y a eu plusieurs attaques sur la candidate Maia Sandu, qui a quand même reçu 38% des voix au premier tour, face à un adversaire qui en a eu 48. Mais on voit bien, pour une élection où il y avait un certain nombre de candidats, tout petit peu moins d'une dizaine, une très forte polarisation sur les deux premiers candidats.
Voilà, la candidate qui était présentée comme la candidate pro-européenne.
Voilà, pro-européenne, parce qu'économiste, parce que passée par le FMI. Elle a subi un certain nombre de critiques sur les questions des valeurs familiales. Donc on a un parti des socialistes moldaves qui s'appuie énormément sur les autorités orthodoxes de la Moldavie, qui sont, elles, rattachées au patriarcat de Moscou. Donc là-dessus, effectivement, on a ce genre de discours. Et puis, il y avait peut-être un troisième point important dans ce vote, à mon sens, qui était, effectivement, de la part d'Igor Dodon, la volonté de dire il faudra certainement renégocier en partie ou voire arrêter l'accord de libre-échange approfondi et complet, qui est en fait l'accord de libre-échange entre la Moldavie et l'Union européenne, alors qu'il ne remet pas en cause d'autres aspects de l'intégration européenne, comme la question des visas. Il reste très attaché à la question des visas, et de toute façon, son opinion publique ne, évidemment, n'irait pas dans son sens s'il devait dénoncer l'accord de visa entre la Moldavie et l'Union européenne.
En tout cas, on peut dire, Patrick et Martin Jeunier, qu'aujourd'hui, en Europe, il y a un certain mouvement qui plaide l'idée de, on peut être à la fois européen et avoir des relations assez suivies et assez proches avec la Russie.
Oui, voilà. Enfin, je pense qu'il y a également un double langage de la part de ses responsables politiques, parce que je regardais ce que...
Double langage parce que vous considérez qu'on ne peut pas faire les deux, c'est-à-dire...
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut prendre position. On peut très bien entretenir de bonnes relations avec la Russie de M. Poutine, qui, lui, essaye de reconstituer son glacis. On le voit bien en Ukraine, un peu partout. Et cette volonté de se rapprocher de l'Union européenne. À un moment donné, il faut choisir son camp tout à fait pacifique. Mais si on veut intégrer l'Union européenne, il faut intégrer également les valeurs. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie. Qu'est-ce qu'a fait Monsieur Orban, il a organisé un référendum contre l'Union européenne, donc on va instrumentaliser le peuple contre l'Union européenne, et c'est ce que vient d'annoncer Monsieur Dodon en disant je vais procéder à un référendum en Moldavie qui va pouvoir remettre en cause l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc ça, c'est un double langage, parce qu'on ne peut pas faire les deux à un moment donné, honnêtement, sur le plan politique.
Est-ce qu'on ne peut pas faire partie des deux camps en même temps? Je prends par exemple le cas de Chypre, qui fait partie de l'Union européenne et dont le premier partenaire économique aujourd'hui et la Russie. On voit bien que finalement, ça cohabite.
Ça cohabite, mais il faudrait bien régler le problème chypriote de toute façon. Ils sont en train de discuter aujourd'hui pour une réunification de l'île qui est tout à fait aberrante et ça ne remet pas en cause de bonnes relations commerciales avec la Russie.
Thierry Arsan.
Pour renforcer, Hervé Gardet, votre remarque, il est évident que il faut se rappeler qu'en 2004, avant l'intégration de Chypre dans l'Union européenne, on avait proposé, c'était Kofi Annan, une sorte de confédération intermédiaire entre les deux parties de l'île, puisque l'île est toujours occupée pour 38% de son territoire par la Turquie depuis 1974, Turquie, membre de l'OTAN, je vous le rappelle, grande organisation évidemment, fondée sur la démocratie. Et ce qu'on voit, c'est que lors de ce référendum, les Chypriotes grecs donc ont tout de suite voté massivement contre cette confédération et pour pouvoir bénéficier des fonds structurels massifs qui allaient être déversés sur eux et développer par la suite des liens extrêmement fructueux avec ce qui n'était pas forcément le lien avec la Russie, qui n'était pas forcément avec les partenaires les plus propres de l'establishment. Donc là, ils ont vraiment, et la Chypre a vraiment mangé aux deux râteliers.
Alors j'évoquais en tout début d'émission cette prise de position assez ferme qu'ont eu Angela Merkel, François Hollande, Mariano Rajoy, Matteo Renzi et Theresa May vendredi dernier à Berlin pour la tournée d'adieu de Barack Obama. Position assez ferme par rapport aux sanctions économiques à maintenir contre la Russie. Florent Parmentier, est-ce que aujourd'hui en Europe c'est quelque chose qui fait l'objet de débats et en tout cas qui peut être un élément de division avec certains pays qui considéraient qu'il faut sortir de ça. Et puis d'ailleurs, à l'intérieur des pays, on le voit bien par exemple aujourd'hui avec François Fillon qui est arrivé en tête du premier tour de la primaire de la droite et du centre, qui lui est favorable à la levée des sanctions. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de bouger.
Oui, c'est vrai que tous les 6 mois, la question de renouveler ou non les sanctions russes, enfin les sanctions à l'égard de la Russie, se poseront. Et l'un des enjeux de la présidentielle bulgare est aussi de participer de ce rapport de force et de voir un petit peu qui est majoritaire au sein de l'Union européenne, sachant qu'il n'y a pas besoin d'une majorité. Un seul État peut bloquer et faire dérailler l'ensemble du processus. Mais pour l'instant, aucun État n'a pris cette responsabilité-là, étant donné les tensions qui se trouvent là, qui se trouvent à ce niveau-là. Et par ailleurs, encore une fois, je crois que les prochains mois feront partie, voilà, de ces moments de réinterrogation. Il est évident que le Royaume-Uni lui-même est un État très favorable aux sanctions. Il sort. Il est évident qu'il y a quelques États qui ont aussi une position plutôt réservée. On a parlé de la Hongrie. On peut parler d'autres États qui ont ce sentiment-là. Donc, on va aller vers effectivement un moment d'explication plus intense. Et les présidentielles françaises vont certainement amener un peu de complexité au jeu.
Patrick Martin-Genier.
Oui, je crois en effet qu'il y a un gros problème de coordination. On parlait de l'Europe, que fait-on ensemble aujourd'hui en Europe? Nous sommes, on va dire, 27 maintenant sans les Britanniques. Il y a toujours les plus grandes difficultés pour trouver une position commune sur des grands sujets de politique internationale. Par exemple, votre collègue tout à l'heure parlait de la Turquie. Aujourd'hui, on n'entend pas l'Union européenne sur la Turquie. Et je peux vous dire que, étant en contact avec un parlementaire européen, on m'a annoncé que jeudi, le Parlement européen allait prendre une délibération, une position politique sur la Turquie. Donc, effectivement, c'est difficile sur des grands sujets. Et au lendemain même, vous évoquiez la réunion des ministres des Affaires étrangères sur l'élection de M. Trump. Certains pays ont refusé de se déplacer en estimant que ça ne servait à rien. La Hongrie, pour ne pas la citer, la Grande-Bretagne, M. Boris Johnson a dit que ça ne l'intéressait pas de participer à cette concertation. Donc il y a une difficulté et je crois que il faut effectivement mettre en avant cette difficulté et la possibilité après de réformer ces institutions pour permettre à certains États d'aller plus loin sur certains sujets de coopération forcée comme la politique étrangère commune.
Est-ce que vous diriez les uns et les autres qu'à la faveur des scrutins récents, alors et en Europe et aux États-Unis bien sûr avec l'élection de Donald Trump, et puis le Brexit qui devrait voir le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, qu'il va y avoir une forme de tectonique des plaques au sein de l'Union européenne et que le centre de gravité politique pourrait se déplacer, même si, bon, si Angela Merkel est réélue pour un quatrième mandat, elle restera sans doute la grande patronne de l'Europe, mais qu'elle aura peut-être intérêt à réorienter ses alliances un peu plus du côté oriental, Thierry Garcin.
Alors ça, on le verra, c'est quelque clair, puisqu'on parle de la construction européenne, qui est une des plus belles réussites donc dans les relations internationales depuis la fin de la guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si on parle de construction européenne, il faut maintenant parler réellement de déconstruction européenne. Alors, à la fois dans l'ancien Est et dans l'ancien Ouest. Dans l'ancien Est, vous l'avez vu, avec effectivement des points de vue très différents d'un pays à l'autre à l'égard de la Russie, et le fait que dans l'ancien Est, on est en train de déconstruire l'état de droit, qui est un des critères de Copenhague 1993, minimal il y avait démocratie, état de droit, entre autres, et l'état de droit est un prérequis pour devenir candidat. Alors, l'état de droit est déconstruit en Pologne, il est déconstruit officiellement également en Croatie en partie, il est déconstruit évidemment en Hongrie. Et le résultat étant que la Commission européenne et les institutions européennes sont quasiment sourdes, aveugles, absentes, etc. Et que là, si elles parlaient, elles contribueraient à des divisions. Et comme elles ne parlent pas, elles contribuent à sa dévalorisation elle-même de la Commission. Et alors, comment voulez-vous expliquer à des Européens qu'il faut respecter l'état de droit ? C'est pas bien de ne pas respecter l'état de droit, alors que la Commission européenne, sous injonction de la chancelière allemande, le 18 mars dernier, a réouvert, contre toute attente, le processus d'adhésion, de négociation pour l'adhésion de la Turquie, a imposé des quotas obligatoires aux membres de l'Union européenne et a promis l'envoi de 2x3 milliards d'euros à la Turquie sans réel contrôle. On est là dans des formidables contradictions des institutions européennes. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la Commission a tout faux en ce moment.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Très bien. L'Europe a-t-elle le cul entre deux chaises ? C'est la question que nous posons ce soir à Patrick Martin-Jeunier, à Florent Parmentier et à Thierry Garcin. Nous poursuivons la discussion autour de la reconfiguration de la diplomatie européenne. Enfin, diplomatie européenne, j'ai un petit peu de mal du coup à utiliser ce terme, tant qu'on voit qu'il y a de fortes contradictions et de fortes tensions entre les pays de l'Union. Est-ce que si on a une approche, peut-être alors malgré tout un petit peu optimiste, on peut estimer, Florent Parmentier, Patrick Martin-Jeunier, que justement le fait que Trump soit élu aux États-Unis et ait annoncé sa volonté de se désengager tout partie de l'OTAN, ce sera sans doute seulement en partie, pas entièrement, même si c'est un processus qui avait déjà été un petit peu initié par Barack Obama, que Trump annonce aussi vouloir reconstruire une relation beaucoup plus étroite avec la Russie, que ça pourrait se faire peut-être au-dessus, en tout cas, de la tête des Européens. Est-ce que ça ne peut pas être une chance, justement, pour l'Union européenne de se reconstruire ? On a parlé de construction, de déconstruction. Est-ce que là, ce n'est pas la porte ouverte à la reconstruction, Florent Parmentier ?
Oui, je crois que nous avons décrit ce processus de morcellement, de fragmentation au sein de l'Union européenne, avec un certain nombre de pays qui, aujourd'hui, ont des préférences et des divergences assez fortes. S'il devait y avoir une initiative, d'abord, il faut voir que le moment n'est pas forcément le plus simple, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire. Ce serait probablement d'aller vers une initiative franco-allemande, mais qu'on ne pourrait visiblement voir être mise en œuvre qu'à partir du moment où les deux pays auront tenu leurs élections.
Mais est-ce que c'est pas un peu anachronique de toujours en rester au couple franco-allemand ? C'est-à-dire, est-ce que j'évoquais tout à l'heure le centre de gravité politique de l'Europe qui semble s'être déplacé ? Est-ce que le couple franco-allemand est pas un petit peu à l'écart aujourd'hui de ce centre de gravité ?
Tout dépend ce qu'on veut faire. Si on garde le cadre de l'Europe à 27, effectivement, le couple allemand est peut-être insuffisant. Si on se dit, au contraire, que pour avoir une Union européenne forte, il faut avoir un centre qui lui-même est capable d'impulser un certain nombre de décisions, voire peut-être de ne fonctionner qu'avec un groupe avancé, à ce moment-là, l'initiative franco-allemande est probablement la plus intéressante. Parce que c'est un couple qui est traversé par les contradictions et qui est habité par des habitudes de travail qui durent depuis plusieurs décennies. Donc s'il y a quelque chose, je crois que l'Union européenne n'a pas nécessairement vocation... l'Union européenne sera affectée par la sortie du Royaume-Uni, mais comme le Royaume-Uni lui-même sera très affecté, s'il devait y avoir, à mon avis, une remise en cause de l'Union européenne, ça ne passerait pas par quelques forces centrifuges. Enfin, ce ne serait pas les extérieurs, en tout cas, qui mettraient davantage l'Europe en difficulté, mais bien une crise au sein du centre et du cœur. Ce cœur reste malgré tout un cœur franco-allemand pour des questions de puissance, de politique, des questions de présence tout au sein du continent.
Patrick Martin-Jeunier.
On ne peut rien faire sans le couple franco-allemand, mais le couple franco-allemand ne se suffit pas à lui-même. Hein. Donc il faut agréger autour des États, d'où effectivement Mme Merkel, qui a été assez gênée que M. Obama veuille l'introniser comme chef du monde libre. Elle ne se sent pas la force force de faire ça tout seul, parce que vous parliez de la faiblesse des institutions européennes tout à l'heure, c'est vrai, mais il y a aussi un retour de l'intergouvernemental, c'est-à-dire qu'il y a quelques chefs de gouvernement importants qui peuvent effectivement faire relancer la construction européenne. J'en veux pour preuve le sommet de Bratislava, avec des conclusions au mois de septembre 2016 pour la relance de l'Europe. Et moi, personnellement, j'ai tendance à penser que l'élection de M. Trump va pouvoir nous donner une sorte de sursaut, une possibilité de rebondir, parce que M. Trump, avec ses propos tout à fait excessifs dans ses campagnes électorales, je l'entendais aux États-Unis en disant « je vous parle de l'OTAN, il y a certains pays dont les gens dans la salle n'ont jamais entendu parler ». Donc, il va dire, il va arriver en Europe, peut-être va-t-il aller voir Mme May en premier, vous savez qu'il a reçu Monsieur Farage, et il va nous mettre face à nos propres responsabilités, et je crois que c'est une chance pour nous de dire il faut faire relancer la défense européenne, mais il ne faut pas uniquement en parler, il faut des faits, il faut des initiatives et naturellement de l'argent.
Il y avait une tribune de Pierre Moscovici avant-hier dans le journal du dimanche, commissaire chargé des affaires économiques, qui était titré justement, voilà, l'élection de Trump est une chance pour l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pourcentage, ou un gros pourcentage d'ailleurs, je ne sais pas, Thierry Garcia, de méthode couée dans cette façon d'affirmer que voilà, finalement, Trump va peut-être sauver l'Europe?
Alors, Patrick Martin-Genier l'a très bien dit, tout passe quand même ab initio et in fine par, non pas le couple qui n'existe plus depuis les années 90, mais par l'axe, le tandem, comme on le voudra, franco-allemand. Moi, j'utilise souvent cette expression, c'est le chat de l'aiguille, c'est-à-dire il faut que le fil de couture, le fil communautaire de l'Union européenne passe dans le chat de l'aiguille, et le chat, il est franco-allemand par définition.
Et en fait... Et le fil, c'est un gros fil?
Le fil, pour l'instant, c'est un fil très ténu, mais ce qui est intéressant...
Donc ça va, pour passer dans un chat.
Oui, mais il faut avoir de bons yeux, je peux vous dire. Alors, mes compétences en couture s'arrêtent là, Hervé. Je voulais vous dire que ce qui est très frappant, c'est de voir que l'Allemagne et la France ont divergé, non pas depuis le traitement de la crise économique de 2008, 2009, 2010, etc., la question grecque, austérité versus croissance, etc., le Fonds européen de stabilité financière. Bon, ça, ce sont des dossiers techniques où on voit qu'ils étaient, la France et l'Allemagne n'étaient pas du tout d'accord. Mais en fait, plutôt pour parler poliment, l'Allemagne et la France. Et ça commence très exactement au tournant des années 2000. C'est entre 1999, 2000, 2001 qu'on voit déjà le traité de Nice qui aboutit à prévoir une Europe à 27 avec les États, les futurs États désignés. Et c'est un traité de Nice qui arrivait, c'était extraordinaire, à mécontenter violemment aussi bien les souverainistes que les fédéralistes. Alors c'était quand même une sorte d'exploit absurde. Et puis, vous avez eu à cette époque-là aussi une fuite en avant vers la Constitution européenne. Ça n'a pas abouti, comme vous le savez, avec les référendums français et néerlandais de 2005. Et puis c'est à ce moment-là aussi, au début des années 2000, où il y a une divergence, un divorce économique entre l'Allemagne et la France. C'est-à-dire l'Allemagne ne joue plus dans la cour des classes intermédiaires, la nôtre, et la France ne joue plus de la cour des grands. Et le grand de l'Union européenne, c'est bien sûr économiquement l'Allemagne. Et entre 2003 et 2007, vous voyez, cette période est à retravailler. Hein, entre 99, 98, 99, 2003, et bien entre 2003 et 2009, l'Allemagne est devenue le premier exportateur mondial. Elle est le deuxième ex-aequo. Ou le second ex-aequo, comme on voudra. Elle vient d'être doublée en 2009 par la Chine. Mais si vous voulez, l'Allemagne est sortie par moment, et ça c'est fondamental pour l'avenir, et c'est pour ça que l'axe franco-allemand est un axe très très fragile, et l'Allemagne est sortie, on n'a pas le temps, de l'enveloppe de l'Union Européenne dans certains dossiers. Alors je vous le dis tout de suite, c'est évidemment le climat avec le retour à la pollution et aux centrales à charbon. C'est bien sûr la question de l'immigration, c'est la question de la Turquie, c'est la question du traitement du cas grec. Elle, si vous voulez, l'Allemagne joue aussi ailleurs que dans l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la France.
L'Allemagne qui devient peut-être, alors quoi, la nouvelle Angleterre, le nouveau Royaume-Uni, qui serait l'empêcheur de tourner en rond, en tout cas.
On est dans un phénomène des générations. L'Allemagne a perdu ou a abandonné sa politique de retenue, c'est très clair.
Patrick Martin-Genier.
Oui, mais comme vous dites, je crois que l'axe franco-allemand est tout à fait essentiel, parce que rien ne se fait sans l'Allemagne. Moi, j'aime bien citer Jean Monnet lorsqu'il dit, on cite souvent cette expression, l'Europe se fera dans les crises, elle sera la somme qu'on apporte à ces crises. Alors aujourd'hui, il y a une succession de crises. Avant, on savait où on voulait aller, et là, on ne sait plus tellement où on veut aller. S'agissant de Mme Merkel, le phénomène est fragile, parce que Mme Merkel entretient elle est de l'ancienne Allemagne de l'Est, elle parle russe, et un jour, un diplomate Thomas Talman m'expliquait qu'en visite à Paris, elle avait fait arrêter sa voiture pour discuter avec M. Poutine sur les grands enjeux de la planète. Ce qui veut dire que c'est aussi une ancienne génération. Elle entretient de bonnes relations avec la Russie parce qu'elle parle russe, elle comprend bien ce qui se passe à l'Est. Mais il est vrai aussi que le couple franco-allemand est un peu déséquilibré sur toutes les initiatives qu'on peut prendre depuis ces dernières années. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur le plan institutionnel aussi, il faudra bien un jour qu'on ait une réflexion sur l'Europe politique. Que faisons-nous ensemble? Tout le monde n'est pas satisfait des institutions européennes. Je suis assez frappé que depuis pratiquement une dizaine d'années, depuis le traité de Lisbonne, on n'a plus réfléchi sur les institutions européennes.
Alors justement, sur l'effet vertueux des crises pour la construction européenne, enfin vertueux, si tant est qu'on est pour davantage d'intégration, Florent Parmentier, on a vu quand même après la crise de 2008, même si c'est quelque chose qui est resté inabouti, mais de l'intégration économique en Europe. Là, on a une crise politique, avec la remise en cause de ce que représente ou de ce que pourra représenter à l'avenir l'OTAN pour la défense des Européens. Est-ce que un processus identique, finalement, d'intégration politique et d'intégration par l'Europe de la défense est quelque chose qui, aujourd'hui en tout cas, recommence à être évoqué et réfléchi sérieusement?
Alors, quand on pense Europe de la défense, ça nous amènerait peut-être à nuancer un peu la domination allemande sur le plan économique est extrêmement claire en termes de leadership au sein de l'Union européenne. En revanche, et malgré le livre blanc allemand qui a eu lieu cette année, l'armée française reste incomparablement plus opérationnelle et sur beaucoup plus de terrain que l'armée allemande. Et ça, c'est quelque chose qui continuera et qui n'a pas vocation à changer. Précisément aussi parce que l'armée française est probablement la seule, après le Brexit, à avoir une vraie compétence internationale. Et il n'est pas totalement, c'est pas totalement hasard si, dans le cadre du processus de Normandie, du format Normandie de négociation, on a à la fois sur la question de l'Ukraine et du conflit à l'est de l'Ukraine, à la fois la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne, mais aussi la France qui est représentée. C'est que des deux, la France est la partie militaire. Est-ce que pour autant la France aujourd'hui a une capacité, une leadership à pouvoir se dire à la fois que certes l'Allemagne est présente sur tout un tas d'enjeux qui sont très méconnus en France. L'Allemagne a une pensée de la route de la soie, nouvelle route de la soie, de ses relations avec la Chine, de comment ça s'intègre dans l'espace eurasiatique. Et ça je pense que c'est quelque chose qui manque véritablement, dont on entend très peu parler en France, mais qui est un sujet effectivement pour nous. Mais la France n'a pas à voir, est aussi capable de se redéployer sur un certain nombre de domaines. L'Afrique étant l'une des zones d'expertise de la France au sein de l'Union européenne et qui là aussi est quelque chose de tout à fait notable. Donc est-ce que la France aujourd'hui, en tant que première armée du continent, en tout cas du continent de l'Union européenne, est capable d'avoir ce leadership? C'est cette question. On pourrait poser presque sous cette forme-là la question. Les Allemands ont commencé à réfléchir à travers leur livre blanc à ces questions-là. Les Polonais achètent de plus en plus de matériel. On sent qu'il y a un réarmement polonais. Pour autant, voilà, la vraie question est plutôt de se dire, par rapport à ça, est-ce qu'il y a quelque chose à construire? On parlait de l'insuffisance du moteur franco-allemand autour du triangle de Weimar qui rassemble la France, l'Allemagne et la Pologne. C'est une hypothèse de travail. Naturellement, il faut garder en tête que le français, allemand, polonais n'ont pas les mêmes intérêts. Donc c'est à la fois utile, pertinent dans l'échange, mais c'est également difficile dans les réalisations de réaliser quelque chose ensuite qui serait de l'ordre de la défense européenne.
Patrick Martin-Jeunier, vous évoquiez tout à l'heure le sommet de Bratislava, sommet de l'Union européenne à Bratislava à la mi-septembre, où il avait été question justement de la défense européenne avec un appel à une coopération plus étroite, à la mutualisation des moyens militaires, à la création d'un fonds pour l'industrie européenne. Et puis la semaine dernière, il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la défense européen, avec l'objectif, alors à moyen terme au minimum, c'est sans doute d'ailleurs même plutôt à long terme, d'une structure permanente, alors on ne parle pas d'une armée européenne, là on en est très loin, mais qui permettrait de mieux planifier, de réaliser les opérations civiles et militaires de l'Union européenne. Ça bouge quand même un petit peu sur ce plan-là.
Ça bouge un peu, je pense qu'il y a une prise de conscience, et Mme Mogherini, pour ne pas la citer, qui est la haute représentante pour la sécurité européenne, disait on a augmenté de façon symbolique le budget de l'Agence européenne de défense, dont vous savez qu'elle est très critiquée. Et donc le principal défi aujourd'hui, c'est dans le cadre de restrictions budgétaires dans les États membres, d'essayer de mutualiser les dépenses, de faire des réalisations comme on l'a fait avec l'Airbus sur le plan de l'aviation civile, des réalisations militaires en commun. Et c'est un défi. Le sommet de Bratislava est important, mais encore une fois, on en est souvent resté à des intentions, hein, sans aller dans le concret. Et un autre élément qui est très important qu'on n'a pas souligné, c'est que depuis les événements terroristes ces deux dernières années, l'Europe, les citoyens veulent que l'Europe les protège et qu'on aille également en avant en domaine de la sécurité des citoyens. Donc je pense que Europe de la défense et Europe de la sécurité vont de pair et qu'on est face à de terribles défis que l'Europe doit aujourd'hui relever.
Même s'il peut y avoir aussi une forme de contradiction dans les demandes des citoyens européens, parce que à la fois il y a une demande de protection, mais cette demande de protection par une défense européenne, ça supposerait des transferts de souveraineté. Or, les votes sont plutôt des votes, enfin, ce qu'on voit émerger énormément, sont des votes nationalistes.
On revient à beaucoup plus d'intergouvernemental, étant donné qu'il y a trois niveaux en Europe, l'intergouvernemental, le confédéral quand même, par exemple les accords de Schengen, et puis le fédéral, c'est évidemment par définition l'euro. Je serais assez prudent sur cette question de la défense de l'Europe, sans parler de défense européenne, pour une raison simple, c'est que l'Europe aujourd'hui n'a plus de projet. Le projet fédéraliste de Maastricht a explosé en vol.
Et ça peut être un projet justement.
Alors, surtout pas refédéraliser.
Je ne parle pas du projet fédéraliste, de la défense de l'Europe, voire d'une défense européenne.
Oui, mais alors moi, il y a quand même quelque chose. Une défense, c'est, on va dire, la pointe de diamant ou la pointe de l'épée, puisque c'est un bras armé de l'État ou des États. Et vous ne faites pas de défense en Europe. Conjugué, et il faut le faire, c'était très bien dit, sans qu'il y ait au préalable des fondations. Et les fondations, c'est la politique étrangère. Vous ne faites pas de défense en politique étrangère commune. Et c'est la coquille vide depuis très longtemps de l'Europe. Je regarde par exemple, en vous écoutant, je faisais une petite liste de tous les drames, les tragédies, hélas, qui ont traversé ou l'Europe ou des pays voisins. Et à chaque fois, il y a eu en Europe des divisions majeures sur ce qu'il fallait faire. Je prends Yougoslavie, ex-Yougoslavie, Kosovo, où nous avons, sur le plan évidemment juridique, tout faux. L'Irak 2003, la guerre d'invasion de Bush fils. La Libye 2011, la Crimée 2014. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un grand dossier, ou qui nous concerne, ou qui nous est proche, ou dans lequel nous intervenons, et la politique étrangère montre sa vacuité.
Il y a pas de contre-exemple dans votre liste.
Non, mais j'ai fait une liste beaucoup plus importante, je pourrais vous montrer, qui montre qu'on y, Alors la difficulté précisément, c'est de faire une défense avec une absence de politique étrangère. Je pense que ça intéressera les hommes et les femmes politiques dans l'avenir, dans les deux ou trois ans à venir, je crois que c'est un leurre.
Bon, commençons par les fondations, disons, Florent Parmentier.
Oui, à ce sujet, il y a un document qu'il est peut-être utile de consulter, qui est la stratégie globale de l'Union européenne, éditée par Mogherini et ses services. Ce qui est frappant, c'est quand on compare par rapport à la stratégie...
Federica Mogherini, je rappelle, la haute représentante de la diplomatie européenne.
Ce qui est important de voir, c'est que le ton est quand même radicalement différent de ce qu'était la stratégie européenne de sécurité de Javier Solana, qui était le haut représentant pour la sécurité en 2003. Et ce qui a changé, c'est à la fois une analyse peut-être plus fine des menaces. Je pense que ce que met le document en avant, c'est quand même une espèce de conscience du danger qui est autour de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Le document de 2003 était beaucoup plus affirmatif, avenant avec cette idée qu'il fallait avoir un cercle d'États bien gouverné autour de soi. Aujourd'hui, on voit bien que la ligne de frontière et de sécurité n'est plus à l'extérieur de l'Union européenne, qui serait stabilisée, mais on s'aperçoit qu'il y a une espèce de sentiment effectivement plus mélangé. C'est-à-dire que les menaces, elles sont aussi sur notre territoire national et sur plein d'autres, sur un certain nombre de points.
Mais c'est un document qui a fait l'objet d'un consensus de la part des pays membres ou c'est un document qui vient exclusivement justement des institutions européennes, enfin de la haute représentante?
Le document a fait l'objet d'un accord suffisamment large. Il pouvait naturellement, ce qui veut dire aussi que ça empêche un certain nombre, ça, en tout cas... ça ne répond pas à un certain nombre de questions. Peut-être l'un des points qui est très en lien avec la question de ce soir, c'est d'observer une sorte de paradoxe européen, qui est qu'à la fois, on affirme dans le document, dans notre stratégie globale, qu'il est tout à fait naturel, souhaitable d'encourager l'intégration régionale dès que l'on peut, mais qu'en revanche, rien n'est dit sur ce que nous voulons faire, nous, en tant qu'Européens, sur l'intégration dans l'espace post-soviétique. À savoir, il y a une forme d'interrogation de la part des Russes qui nous disent à la fois, mais vous encouragez l'intégration régionale autour du Brésil, vous encouragez l'ASEAN, vous encouragez un certain nombre de choses, mais dès qu'il s'agit de la Russie, vous avez une position contraire. Et c'est aussi à ça, certainement, sur lequel il faut s'interroger du côté européen.
Patrick Martin-Jeunier, il y a un effort de clarification peut-être à faire, ouais, et de cohésion sur le plan diplomatique avant de penser à l'échelon d'après.
Voilà, oui, parce que vous savez que là, il faut qu'on décide à l'unanimité sur la politique étrangère, la politique de défense, c'est extrêmement compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne veut pas que l'Europe reste le cul entre deux chaises, pour reprendre le titre de votre émission,
merci beaucoup.
Il faudra bien qu'un jour, on se mette d'accord et l'Europe ne pourra plus peut-être systématiquement avancer à 27. Dans le traité, il y a des stipulations qui permettent de développer les coopérations renforcées à cet État. Et par exemple, les citoyens réclament plus de sécurité. Il y a une stipulation dans le traité qui dit qu'il peut y avoir un parquet européen pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, personne n'est d'accord sur la mise en place de ce parquet. Donc on peut le faire à plusieurs, sans pour autant attendre que les 27 soient d'accord.
Donc les outils sont là, encore faudrait-il s'en servir. Merci beaucoup à tous les trois, Patrick Martin-Jeunier, Florent Parmentier et Thierry Garcin, d'avoir participé à cette émission. Thierry, donc demain matin, les enjeux internationaux à 7h moins le quart, vous parlerez de la Cour pénale internationale, c'est bien ça?
Voilà.
Vous vous souvenez avec qui? Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas toujours ce que je fais le lendemain ou la veille, moi.
Oui, alors avec Julien Fernandez, qui est professeur à Paris 2, évidemment, juriste et spécialiste de droit international, qui vient de faire paraître un ouvrage collectif sur la justice pénale internationale.
Merci beaucoup. Un grand merci également à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Bayer, Isolde Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Pascal Baudin. Demain, nous nous retrouvons à 18h20 pour une émission spéciale, comme chaque année, la délibération en direct d'un jury de prix littéraire, en l'occurrence le prix Bristol des Lumières.